Je vais maintenant vous présenter notre conférencier de ce soir. Donc Pierre Livet est né en 1945. Il est philosophe. Il est directeur de l'école doctorale Cognition, Langage, Éducation à Aix-Marseille 1, professeur à l'université d'Aix-Marseille 1, membre du séminaire d'épistémologie comparative à Aix. Il est agrégé de philosophie et docteur d'État. Ses spécialités: les travaux de Pierre Livet s'inscrivent dans le cadre de réflexions sur la philosophie de l'action. Il s'est intéressé aux limites de la rationalité, au rôle des croyances et des émotions. Concernant sa bibliographie, donc il a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il a aussi dirigé plusieurs ouvrages, dont « L'éthique à la croisée des savoirs » chez Vrin en 1996, « Argumentation, droit et sciences sociales » aux presses de l'Université de Laval en 2000, « De la perception à l'action » chez Vrin en 2000, et est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « La communauté virtuelle » aux éditions de l'Éclat en 1994 et « Émotion et rationalité morale » paru au PUF en 2002. Donc Pierre Livet, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons des questions avec le public. Merci.
Merci beaucoup. Je vais donc vous parler des émotions et de leur rapport avec la rationalité. Pas dans toutes les sciences sociales, loin de là. En fait, la seule science proprement sociale que je vais évoquer, c'est l'économie. Mais bien sûr, je vais quand même dire quelques mots des émotions, de l'étude des émotions en psychologie et de leur rôle en philosophie. D'autant que ces 10 dernières années environ, l'intérêt pour l'étude des émotions en philosophie est quelque chose qui s'est énormément développé. Il y a en particulier l'ouvrage de Christine Tapolet sur émotions et valeurs au PUF, des ouvrages de Ruven Augien sur la honte, sur la haine chez divers éditeurs, etc. C'est au fond dans le domaine économique qu'on s'attend le moins à voir apparaître une étude théorique, une prise en compte théorique des émotions. Il est assez normal pour les psychologues de s'intéresser aux émotions, tout simplement parce qu'elles existent. Il est aussi naturel pour les philosophes de s'intéresser aux émotions, aussi parce qu'elles existent, mais évidemment, il faut qu'ils aient, ces philosophes, à dire autre chose, ou quelque chose en plus, de ce que disent les psychologues. Sinon, ce n'est pas tellement la peine de développer des théories philosophiques. En psychologie, cependant, il y avait une sorte de barrière pour l'étude des émotions, sans parler évidemment de l'économie. Et donc cette barrière, c'était que pour l'économie, les émotions étaient considérées comme irrationnelles. Je reviendrai au... Pour l'économie, les émotions étaient considérées comme irrationnelles et donc incapables d'entrer dans une théorie qui s'appelle justement théorie du choix rationnel. Et pour la psychologie, l'obstacle était un peu différent. Comme la tendance essentielle, c'était le behaviorisme, il fallait disposer d'indicateurs comportementaux relativement fiables des émotions. Alors, ce qu'on avait, c'était des choses comme la variation de conductance de la peau ou l'accélération des battements du cœur, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que ces indicateurs sont corrélés à des augmentations d'émotions, mais on ne sait pas exactement de quelles émotions. Et comme nous avons quand même chacun introspectivement une riche vie émotionnelle et capable de distinguer beaucoup de catégories d'émotions, le behavioriste disposait, lui, d'un vocabulaire très très faible par rapport à la panoplie, si je puis dire, émotionnelle du sujet. Du coup, ces études n'étaient pas forcément d'un intérêt foudroyant. En économie, un intérêt possible des émotions, c'est que, évidemment, si vous voulez, non pas peut-être prédire les comportements des acteurs économiques, mais au moins imaginer différents scénarios, il est recommandé, dirons-nous, de vous faire une idée réaliste des fonctionnements psychologiques de ces acteurs.
Si donc vous avez une théorie de l'agent rationnel qui ne tient absolument pas compte des émotions, bah évidemment, vous avez peu de chances d'avoir une bonne prédiction de ces comportements. Alors, personnellement, je pense que la prédiction est hors de portée en économie, mais au moins, on peut essayer d'imaginer des scénarios qui soient quelque peu réalistes. Et il se trouve que, j'insisterai uniquement là-dessus, certains économistes ont pensé que la prise en compte des émotions permettait de donner des solutions plus intéressantes rationnellement que celles données d'habitude à l'économie par certains problèmes. Bien, alors, c'est cet obstacle du behaviorisme et de l'irrationalité, ces obstacles ont été partiellement levés par la convergence de différentes découvertes ou avancées. Et le premier point, c'est que un des premiers points, ce sont les études de Damasio, dont vous avez sûrement entendu parler de son livre qui a un titre retentissant pour les philosophes, L'erreur de Descartes. Bon, seul le titre est mauvais, le reste du livre est bon, puisque Descartes, évidemment, n'était pas quelqu'un qui tenait pour la rationalité uniquement face aux passions. Au contraire, il a écrit un traité des passions qui est extrêmement documenté et intéressant, et dans lequel il imagine des mécanismes qui, finalement, ont à peu près la même structure que ceux qu'imagine Damasio. Pas, évidemment, le même contenu précis, empirique, mais, finalement, une structure assez, assez similaire. Alors, donc, Damasio a pensé montrer que certaines lésions, donc des lésions du cortex préfrontal, par là, à l'intérieur, provoquent des dysfonctionnements des émotions, c'est-à-dire que les gens ont des émotions, se mettent en colère bizarrement, on ne sait pas pourquoi, ou encore n'ont pas des émotions adaptées. Et en même temps, elles rendent très difficile pour ces personnes la gestion à long terme de plans de vie. C'est-à-dire qu'ils sont très dépendants de ce qui se passe sur le moment. Alors ça, on sait que de toute façon, c'est des propriétés qui découlent d'un déficit frontal en général. On a essayé de faire des expériences là-dessus, et une expérience très simple, c'est de demander à des gens qui ont ce genre de lésion de jouer dans un certain jeu de cartes qui consiste simplement à tirer des cartes, soit d'un paquet, soit d'un autre. Et il y a un des paquets qui est ainsi fait, que vous tirez de temps en temps des cartes qui vous donnent un très fort gain, mais la majeure partie du temps, vous tirez des cartes qui vous donnent des pertes modérées. Et puis, dans l'autre paquet, vous avez des cartes qui vous donnent des gains modérés, mais qui, en fait, compensent largement les pertes modérées que vous pouvez subir aussi dans ce paquet. Donc, au total, sur le long terme, il est évident qu'il est plus rationnel de prendre des cartes dans le second paquet plutôt que dans le premier. Mais comme les très bonnes cartes sont évidemment saillantes et facilement retenues, eh bien, les gens qui ont ces lésions n'arrivent pas à choisir le second paquet. Ils se rendent compte parfois que théoriquement, ça serait plus rationnel de prendre le premier, mais dès qu'ils tirent une carte qui leur donne un gain intéressant, ils reprennent le premier paquet. Donc ils sont, au fond, dirigés trop directement par des stimuli favorables de l'environnement. Ils n'arrivent pas à faire des planifications à long terme. Bien, donc l'idée de Damasio, c'est que peut-être que les émotions, un déficit émotionnel, va de pair avec une incapacité à faire les bonnes évaluations à long terme. Puisque les émotions, à ce moment-là, sont liées à des évaluations. Et au fond, si nous ne disposons plus de toutes nos capacités émotionnelles, nous pourrions ne pas bien évaluer le devenir de notre vie. Le deuxième point, c'est l'introduction d'une conception évolutionniste pour comprendre la rationalité. Au lieu de comprendre la rationalité comme une sorte de faculté innée, enfin la raison comme une faculté innée dont on ne sait pas trop exactement d'ailleurs comment la définir, ou alors qui serait une sorte d'idéal que nous poursuivons sans toujours l'atteindre. Les théories épistémologiques qui ont été développées considèrent que nos capacités rationnelles et le choix de nos méthodes rationnelles comme d'autres fonctions de notre cognition sont issues évidemment de l'évolution, ont été sélectionnées par l'évolution. Et dès lors, comme les émotions ont aussi été sélectionnées par l'évolution, ben, on ne voit pas bien pourquoi on devrait considérer les unes comme diaboliques, des vilaines passions qui nous entraînent sans que nous y puissions rien, et faire de la raison une sorte de déesse intangible. Donc il doit y avoir des relations entre rationalité et émotion si, finalement, elles sont toutes les deux sélectionnées par les mêmes conditions évolutives. Ce qui est forcément le cas, puisque c'est le même individu qui rationalise et qui est affecté par ses émotions. Un autre élément qui là essaye de donner à la fois une fonction sociale aux émotions et donc de participer à une sorte, si vous voulez, d'éthologie affective qu'on pourrait étudier chez l'homme comme chez les animaux, c'est que les émotions les plus grossièrement définies, mais qu'on appelle parfois émotions de base, je vous ai donné la liste là, peur, colère, dégoût, tristesse, surprise et contentement, donnent lieu à des expressions qui sont reconnues dans toutes les cultures dans lesquelles on a pu faire les expériences en question, qui sont des expériences d'Ekman et Friesen. Ils ont fait des expériences assez sophistiquées, puisque maintenant on dispose, vous savez, de procédés d'images qui permettent de déformer continuellement les visages. Donc on peut déformer une image continuellement de manière à la faire passer d'une émotion, d'une expression qui est la gaieté, à une expression qui est la colère. Et dans la plupart des cultures, les gens mettent le changement, le seuil de transition d'une catégorie émotionnelle à l'autre à peu près au même endroit. Alors évidemment, une telle étude n'est possible que pour des émotions que j'ai dites grossières ici. Ça ne veut pas dire qu'elles sont particulièrement peu raffiné. Mais vous voyez que pour des émotions du genre est-ce qu'on peut distinguer par exemple le contentement et l'estime de soi? Est-ce qu'on peut distinguer clairement l'expression qu'on peut avoir lors de la honte ou celle de la culpabilité? Ekman a été jusque-là. Hein, il pense que honte et culpabilité sont des expressions reconnues de manière transculturelle. Là, ces résultats, évidemment, étaient contestés, et je pense à juste titre. Mais enfin, vous voyez que si les expressions des émotions ont une certaine stabilité à travers les cultures, ben, c'est que nous touchons là à des catégories qui concernent vraiment des données fondamentales de la cognition humaine. Et donc, dès qu'on essaye d'étudier la cognition, on va s'y intéresser. Alors, pour que, justement, la notion de cognition puisse intervenir, il a fallu, évidemment, quelques changements, ou quelques améliorations méthodologiques dans le domaine de la psychologie. C'est-à-dire qu'il a fallu apporter une sorte de supplément au behaviorisme. Le behaviorisme se contentait de considérer les stimuli à l'entrée et puis les réactions des individus à la sortie. Et on est passé, comme vous le savez sans doute, à l'idée qu'on pouvait imaginer des différences dans des procédures internes de traitement de l'information qui se traduisait tout de même en sortie par une différence dans les temps de réaction ou éventuellement dans la répartition entre les problèmes qui étaient bien traités et puis les problèmes qui étaient mal traités. Alors c'est en partie la métaphore de l'ordinateur qui a permis cela, puisqu'on s'est dit que si on trouvait deux programmes d'ordinateurs différents qui traitent les mêmes entrées, mais qui ne donnent pas exactement les mêmes résultats à la sortie, et surtout dont l'un met plus de temps que de l'autre à donner les résultats, on avait là un indice de ce que, éventuellement, un cerveau humain ou une cognition humaine pouvait aussi présenter des différences dans le traitement. Et donc, au fond, tout en étudiant toujours des données observables, on pouvait essayer de comprendre ce qui se passait en quelque sorte dans la boîte noire du cerveau, en imaginant des opérations différentes. Et à ce moment-là, il devenait possible de considérer les émotions, non pas comme ça avait été fait jusque-là, en particulier le philosophe James s'était basé là-dessus, comme des espèces de réactions automatiques de bas niveau, mais aussi comme des réactions cognitives de haut niveau. Et la neurophysiologie est venue à l'appui de cette idée en montrant que les émotions pouvaient passer par deux circuits, en gros un circuit direct, si vous voulez, qui passe par donc la vision, l'odorat, etc., et puis qui passe par le système limbique, et tout de suite, il y a une réaction motrice. C'est intéressant d'avoir des réactions immédiates si, justement, l'émotion, c'est la peur devant un danger et qu'il s'agit de fuir rapidement. Sur ce circuit rapide, se greffe un circuit qui, lui, passe par le cortex et qui, donc, permet éventuellement de contrôler l'émotion ou encore de la modifier pour que donner des réactions différentes et pour être aussi sensible à des données qui sont, elles, largement culturelles. Ce qui fait que l'émotion devient quelque chose de très riche, puisque vous avez à la fois une base qui, elle, est transculturelle, et puis des enrichissements et des complexifications qui sont apportés par le traitement cortical. Et les expériences de Damasio sur ces lésions préfrontales portaient justement sur ce circuit cortical, pas simplement sur un circuit limbique. Bien, alors, du coup, un certain nombre de gens se sont dit, si les émotions deviennent quelque chose sur lequel on peut travailler sérieusement, en ayant des données relativement fiables, alors à ce moment-là, pourquoi les utiliser pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. J'ai cité là quelques-uns de ces problèmes, je vais n'étudier que cela, faute de temps bien sûr. Alors, un premier point, vous voyez, c'est l'idée que les émotions pourraient traiter un problème fondamental qui est celui qui tient au fait que nous n'avons pas tout le temps que nous voulons pour traiter l'information. Il nous faut réagir relativement rapidement. Donc, nous emmagasinons, nous recueillons une énorme quantité d'informations. Là, comme vous êtes dans le noir, c'est pas très facile pour moi d'en recueillir beaucoup, mais par exemple, si je pouvais vous voir en pleine lumière, dans une foule, il suffit que quelqu'un grimace et manifeste une expression d'émotion forte pour qu'immédiatement on le repère. Donc vous voyez, on a vraiment un système cognitif très dédié aux émotions, à la reconnaissance des émotions. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que parmi tous les visages de cette salle, il y a un système qui se focalise immédiatement sur les traits présentants la plus grande dynamique émotionnelle. Donc, d'où l'idée qui a été proposée par Johnson, Laird et Oatley, que les émotions nous servent à nous focaliser et donc à nous centrer sur ce qui est important dans notre environnement, ce qui est important évidemment par rapport à nos besoins, à nos désirs et à nos impératifs vitaux. Alors, ça, c'est une première idée. Là, en économie, les problèmes pour lesquels on va convoquer les émotions, c'est des problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle les problèmes de cohérence ou de consistance dynamique. Alors, je vous en donne un exemple qui est proposé par
par quelqu'un qui est passé de la médecine à l'économie, qui s'appelle Hensley. Donc ça, c'est dans son ouvrage Co-Economics. Bon, que dessinent ces courbes ? Ben, c'est simplement quelqu'un qui, ici, à cet instant, peut aller à une soirée dans laquelle il va rencontrer plein de copains intéressants, donc il s'en réjouit à l'avance. Malheureusement, le lendemain de la soirée, à cette époque-là, il a un examen qui est très important pour sa carrière. Donc, il se dit, je vais essayer d'avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre, et donc d'aller à la soirée pour ne pas rater quand même complètement des rencontres intéressantes. Mais évidemment, il faudra que j'en parte tôt, parce que sinon, le lendemain, je serai crevé et mon examen risque d'être raté. Bon, donc, le problème, c'est que les courbes, là, vous indiquent quelle est l'utilité espérée, en tout cas l'avantage qu'il attend avant que se passe l'événement, l'avantage qui était attendu d'aller à la soirée et puis d'être en forme pour son examen en ayant dormi un certain nombre d'heures. Et si on se place ici, bien sûr, notre homme sait d'avance qu'il vaut mieux être en forme pour son examen parce que c'est plus important pour la suite de sa vie. Mais vous voyez qu'une fois qu'il est à la soirée, quand arrive, une heure un peu avancée dans la nuit, il se peut qu'il ait justement fait des rencontres très intéressantes. Et donc, il aura une motivation supérieure à ce moment-là, c'est pour ça que les courbes se croisent. La motivation pour rester à la soirée va devenir supérieure à la motivation pour la quitter. Et donc, évidemment, le problème, c'est que pour décider, nous décidons toujours à un moment donné. Nous ne pouvons pas faire des décisions comme ça longtemps à l'avance. Donc, on a un problème qui est comment arriver à éviter de se laisser piéger par des motivations momentanées. Alors, il y a un autre problème qui est celui qui est bien connu, qui est celui de la coopération. Et là, je vous ai donné donc le problème classique du dilemme des prisonniers, mais on peut le transformer en un dilemme des biens publics, et nous avons un exemple actuellement qui est criant, c'est le problème de la pollution. Donc on sait bien, tout le monde sait bien, que tout le monde s'en trouverait mieux si on faisait des dépenses pour moins polluer. Mais le problème, c'est que il n'est peut-être pas nécessaire que tout le monde fasse ses dépenses. S'il y a juste un pays, pas trop, quand même, dont l'économie ne soit pas trop développée, qui ne fait pas de dépenses pour la pollution, et que tous les autres fassent ses dépenses, évidemment, on arrivera quand même à diminuer fortement la pollution. Donc, chacun peut raisonner en se disant qu'il est justement, enfin, si c'est une nation de moyenne importance comme la France, qu'il est justement ce pays qui pourrait, au fond, se dispenser de faire des efforts pour réduire sa pollution, puisque si les autres font ces efforts, tout se passera bien. Mais évidemment, si tout le monde raisonne comme ça, personne ne dépollue, et du coup, on s'en trouve moins bien. Donc, vous voyez, on se trouve ici, c'est-à-dire dans la situation où les gens n'ont pas dépensé pour la pollution, donc ils ont gardé une certaine somme, et tout le monde a gardé cette somme. Mais évidemment, on ne se trouve pas là, c'est-à-dire où tout le monde a dépensé, mais on a dépollué. Et le problème, c'est qu'il y a toujours une tentation qui est de se trouver soit là, c'est-à-dire d'être celui qui a réussi à ne pas dépenser et à gagner le bonus de la dépollution. Et le problème, c'est que le raisonnement classique en théorie des jeux vous dit qu'il est rationnel de ne pas faire les dépenses, si on est dans cette situation. Et c'est évidemment, on peut considérer que, de ce point de vue-là, les États-Unis jouent rationnellement le dilemme du prisonnier. Alors, évidemment, c'est quand même pas quelque chose qui nous semble très satisfaisant, mais le raisonnement actuel en théorie des jeux ne permet pas un autre résultat que celui-là. Évidemment, on peut se dire, est-ce que vraiment le modèle s'applique à la dépollution ? Ça, c'est une autre affaire. Alors, on va avoir tendance à faire des émotions
les solutions d'un petit peu tous ces problèmes. Tendance que je vais évidemment critiquer parce que
elle n'est pas satisfaisante. Alors vous trouvez entre autres un ouvrage qui date quand même déjà de 1988, hein, de Robert Frank, qui s'appelle donc Patience Within Reasons, et qui essaye de résoudre des problèmes comme celui que je viens d'indiquer, le dilemme du prisonnier, enfin le dilemme des biens publics si vous voulez, à partir en utilisant les émotions. Alors quel est son argument? Il nous dit, mais les émotions, une fois qu'on a été éduqué dans une certaine culture, on dispose d'un certain nombre de dispositions émotionnelles. Et ces dispositions émotionnelles, une fois qu'elles sont activées par les traits de la situation, elles nous contraignent pratiquement à cette activation. C'est-à-dire, c'est très difficile de leur échapper. Une fois que vous êtes habitué à, avoir des sentiments de dégoût contre des excréments, des choses comme ça, vous continuez à les avoir. Hein, c'est des sentiments très puissants. Donc, on peut considérer que quelqu'un qui est guidé par ses émotions est beaucoup plus fiable, beaucoup plus prévisible dans ses comportements que quelqu'un qui est tout le temps en train de ratiociner, hein, comme le théoricien des jeux qu'on vient de voir. Du coup, il est possible aussi, d'ailleurs, que... Alors, un autre avantage des émotions, c'est que les expressions des émotions permettent quelque peu de prévoir quel sera le comportement d'autrui. Alors, si on lit tout ça, alors dans le domaine, par exemple, de l'agressivité ou de la colère, ça peut être tout à fait intéressant de manifester des émotions agressives. Il n'y a pas que les émotions douces qui sont éventuellement intéressantes. Maynard Smith a justement utilisé la théorie des jeux, lui, à propos des animaux, pour essayer de comprendre pourquoi c'était intéressant pour des espèces animales que de, supposons-le, programmer des comportements d'agressivité lors des parades sexuelles. Et parce qu'il avait noté, comme tous les éthologistes, que les espèces dans lesquelles il y a de grandes parades d'agressivité sont aussi les espèces dans lesquelles les animaux qui sont en parade passent le moins souvent à l'acte, c'est-à-dire qu'ils ne se battent pas réellement. Hein, ils font beaucoup d'esbrouf, mais ils n'en viennent pas, aux mains si c'était des humains, et donc il n'y a pas trop de morts. Il y a des blessés éventuellement, mais ça va pas très loin. Donc une espèce dans laquelle les parades d'agressivité sont fréquentes est une espèce qui, en fait, statistiquement, a moins de morts qu'une espèce dans laquelle les compétitions sexuelles, par exemple, se font directement par des batailles sanglantes. Et il a montré qu'on pouvait avoir une notion de théorie des jeux, l'idée de stratégie évolutionnairement stable, qui montre que effectivement cette fois, cette conduite de manifestation émotionnelle est intéressante. Alors bien sûr, de temps en temps, il faut quand même en venir à la bagarre, parce que ce que fait l'émotion, c'est que c'est une menace. Et une menace est efficace si elle est crédible. Et une menace qu'on ne met pas à exécution quand vraiment il faut la mettre à exécution n'est pas crédible. Mais si vous êtes vraiment un être colérique, eh bien, si l'autre ne cède pas, vous allez passer à l'attaque. Et donc la manifestation de l'agressivité est une menace crédible. Toujours parce que l'émotion vous pousse un peu trop loin. Donc vous voyez, au fond, là, c'est une idée un peu étrange, hein. Le résultat que l'on obtient si on n'est pas trop rationnel et si on est un peu guidé, enfin même fortement guidé par ses émotions, peut être plus intéressant parfois, dit Frank, que si on avait une conduite purement rationnelle. Pourquoi ? Parce que quand vous rencontrez, donc, vous vous trouvez dans la situation du dilemme du prisonnier, où vous avez donc des gens qui font défection ou qui coopèrent, vous pourriez essayer d'utiliser les expressions émotionnelles pour voir ceux qui vont coopérer, ceux qui vont faire défection. Et si vous arrivez à reconnaître
les gens qui vont effectivement être des profiteurs, des exploiteurs de votre crédulité, donc ceux qui vont faire défection, bah évidemment, vous n'allez pas, vous allez faire défection avec eux, mais en revanche, vous allez coopérer avec ceux qui coopèrent. Du coup, vous avez cette fois la solution tout à fait optimale. Bien, alors, malheureusement, ce type de solution... Donc, si vous voulez, là, au fond, qu'est-ce que font les émotions ? Elles apportent des solutions là où la rationalité classique n'en donnait pas. Oui, mais est-ce que ces solutions en sont vraiment ? Malheureusement, je pense que non. Alors, il va y avoir un certain nombre de problèmes avec les émotions. En particulier, donc, si je reste dans l'économie, vous voyez que les émotions, évidemment, elles induisent parfois des engagements fiables, mais le problème, c'est que justement, elles nous envoient sur des rails. Et du coup, nous ne pouvons pas réorienter notre comportement de manière aussi facile que si nous gardions la tête froide. Alors, ça, c'est le problème qu'a bien vu Elster dans un ouvrage déjà ancien. Le titre, c'est « Le laboureur et ses enfants », mais à l'intérieur de cet ouvrage, il y a un chapitre sur Ulysse et les sirènes. Il nous présentait le personnage d'Ulysse comme étant quelqu'un qui sait qu'il va avoir un comportement irrationnel quand il sera en face des sirènes, c'est-à-dire qu'il... préféra écouter les sirènes et se diriger vers les rochers, donc fracasser son bateau. Alors, que fait Ulysse ? Mais au fond, comme vous le savez, il se fait lier au mât, il fait boucher les oreilles de ses matelots par de la cire, et il interdit à ses matelots de prêter attention aux ordres qu'il tentera de leur donner par ailleurs. Et donc, il a la possibilité d'écouter les sirènes, lui, mais pas ses matelots, et de ne pas envoyer le bateau à sa perte. Alors, cette stratégie, Elster l'appelle stratégie de l'engagement préalable, et il faut se lier les mains pour ne pas faire ce qui sera préjudiciable. Mais vous voyez que, évidemment, c'est une stratégie qui a des inconvénients. Si par hasard, on allait sur un autre récif que celui des sirènes sans que les matelots s'en aperçoivent et que Ulysse soit le seul à le voir, il ne pourrait plus avertir ses matelots du danger. Il n'y a plus de flexibilité et l'intérêt de la rationalité, c'est sa flexibilité, entre autres. Donc, là aussi, les émotions ne sont pas assez flexibles. Et ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est que si on prend en compte les émotions qui vont nous permettre d'assurer la coopération, c'est-à-dire en gros celles qui tiennent à ce qu'on ressent de la culpabilité quand on se voit en train d'exploiter les autres au lieu de coopérer avec eux, évidemment, il faut tenir compte aussi d'autres émotions qui sont éventuellement complémentaires, et qui sont celles, par exemple, de la jouissance qu'on a à avoir berné son prochain. Et après tout, les fourberies d'Escapin sont là pour nous dire quand même que c'est une émotion qui est partagée. Nous jouissons avec Escapin du fait qu'il ait pu berner ses adversaires. De même, l'idée de la rivalité dans la compétition est aussi une émotion très forte et qui semble même prônée aujourd'hui comme... un type de comportement tout à fait, parallèle et antinomique de celui de la coopération. Donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quel est le bilan final si on met en balance les émotions de culpabilité qui vont nous amener à coopérer et les émotions de rivalité et de compétition qui vont nous amener à tenter d'exploiter les autres. Alors, vous voyez d'ailleurs que c'est un défaut qui n'est pas propre simplement aux économistes, que de ne pas prendre en compte toutes les émotions. Si vous regardez les propositions d'un philosophe comme Habermas, qui nous propose une éthique de la discussion, eh bien, si on se réfère à ce que c'est réellement qu'une discussion, on voit qu'en fait, il y a tout autant d'émotions de compétition dans une discussion que d'émotions de coopération. Donc les émotions, si on les prend en compte, il faut toutes les prendre en compte. Il ne faut pas prendre les bonnes émotions puis laisser s'imaginer que les mauvaises vont se taire d'elles-mêmes. Ce qui fait que, alors, il y a un autre problème qui est que, là je ne rentre pas dans le détail, les émotions sont peu prévisibles. Alors Elster lui a proposé des mécanismes des émotions, dans un ouvrage qui s'appelle Alchemies of Mind et qu'on va bientôt traduire sous le titre Proverbes, Maximes et Émotions, ou Émotions, Maximes et Proverbes, je ne me souviens plus exactement de l'ordre du titre. Il imagine des mécanismes très simples, du genre de ce qu'il appelle l'effet de capitalisation, c'est-à-dire si dans mon passé il y a eu une expérience heureuse, eh bien ça peut rayonner encore dans mon présent. Parce que je m'en souviens. Mais évidemment, nous pouvons lui opposer un mécanisme exactement inverse, qui est l'effet de contraste. Si dans mon passé, il y a eu une expérience heureuse et qu'actuellement, il n'y en a pas, ben, je peux me trouver d'autant plus déprimé parce que je me souviens de ce bonheur passé. Et le problème, dit Elster, c'est que ces deux mécanismes sont bien connus, mais on ne sait pas lequel va fonctionner dans telle et telle circonstance. Ce qui fait qu'il pense qu'en sciences sociales, on ne peut pas faire de prédiction du tout, parce que les mécanismes, l'effet net des mécanismes est peu prévisible. Bon, mais si on ne peut pas dire plus sur les émotions que ce genre de mécanisme simplet, peut-être qu'il faut arrêter de travailler sur les émotions. Et ça semble quand même moins intéressant que ce que peuvent dire d'autres chercheurs. Alors, en philosophie, je n'ai pas jusqu'à présent parlé de la philosophie, mais l'intérêt pour les émotions tient à ce que les philosophes se sont demandé si on ne pouvait pas retrouver une sorte de réalisme moral. Alors, qu'est-ce que c'est que le réalisme moral ? C'est se dire que, après tout, les valeurs sont pas, les valeurs morales ne sont pas simplement des valeurs subjectives, mais ce sont des valeurs qui existent et qui ne sont pas simplement dépendantes de nous. Mais pour y avoir accès, il faut avoir une certaine éducation, une certaine sensibilité, justement, émotionnelle. Bon, cette position me semble un petit peu gênante parce que, vous voyez, on peut avoir des émotions, là j'en donne quelques exemples, qui ne sont pas forcément morales, hein, qui sont pourtant dans un domaine où il y a des valeurs. Une partie d'entre nous a pu ricaner au moment du 11 septembre, hein, au lieu de simplement se penser aux morts, à cause d'un sentiment anti-américain. Et ce n'est pas sûr que, entre les deux, si vous n'avez pas de parents qui soient morts dans l'affaire, peut-être que l'émotion qui guide éventuellement vos décisions n'est peut-être pas l'idée qu'il y a eu des morts, mais l'idée que... il y en a assez de l'arrogance américaine. Il ne semble pas que les émotions puissent être les solutions, évidemment, de tous nos problèmes. Alors, comment... vous voyez, il me semble qu'il y a un échec de cette tentative un peu simple pour dire ben, les problèmes que la rationalité ne résout pas, les émotions vont les résoudre. Et moi, ce que je propose, c'est de lier plus, de manière plus entrelacée, plus intimement entrelacée, les émotions et la rationalité. Mais pour ça, il faut comprendre les émotions de manière dynamique, comme des changements de nos attitudes affectives, et s'intéresser aussi à ce qui, dans la rationalité, est un changement. Alors, le changement dans la rationalité, c'est ce qu'on appelle en logique la révision, on parle de révision des croyances, et qui consiste tout bêtement, lorsque donc nous prévoyons un certain nombre de choses à partir des informations que nous avons eues. Et puis, ce qui se passe n'est pas conforme à nos attentes. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Eh bien, il faut éventuellement réviser nos méthodes de prévision. Par exemple, si nous nous attendions, je viens d'Aix-en-Provence, là, donc si je m'attends à ce qu'à Paris, il fasse le même temps qu'à Aix, c'est-à-dire un beau soleil, eh bien, j'ai des chances d'être déçu assez fréquemment. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais réviser ? Ben, je vais réviser d'abord mes croyances sur le temps moyen à Paris, et puis éventuellement, si je décide d'habiter à Paris, vous voyez qu'il faut que je révise mes préférences pour vivre dans un pays où le soleil est majoritairement dominant. Bon, donc, les émotions, à ce moment-là, sont des réactions à un différentiel. Il se présente une différence entre ce que nous attendions et ce qui se passe. Évidemment, cette différence est évaluée selon nos désirs, nos besoins, nos préférences. Et du coup, au point de vue rationnel, ben, les émotions sont donc une espèce de signal d'alarme ou de réveil qui nous dit « Ah, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu l'attendais, donc il y a peut-être des bases de tes attentes qu'il faut réviser. » Donc vous voyez, là, l'émotion est directement quelque chose qui peut s'enclencher sur une procédure rationnelle. Alors je vous donne un exemple de théorie des jeux, qui est très rapidement, puisque j'ai donné l'exemple du dilemme du prisonnier, je ne vais pas le traiter ce soir parce que ça serait vraiment trop long, c'est assez compliqué en fait le dilemme du prisonnier. Et là vous avez ce qu'on appelle un centipède, vous voyez que, alors on va faire le raisonnement ensemble, donc vous voyez le premier joueur I est au nœud 1, alors il a le choix entre jouer C ou D, mais il peut espérer 3, le gain de 3, s'il arrive jusque-là. Et il peut espérer que le gain de 1 s'il arrive jusque-là. Donc, il se dit, ben, je vais tenter de jouer C. Alors, le joueur J, qui lui est ici, il a le choix donc entre petit C et petit D, et il peut espérer seulement 2 ici, mais 3 là. En conclusion, il joue petit D. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose que, jusqu'à présent, il n'avait pas prévu, donc et qui en plus frustre son attente, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3, il a 0. Alors, chaque fois qu'il y a une frustration, donc une émotion de déception, il y a une incitation à révision. Donc, I révise son coup, et au lieu de jouer C, il joue D. Mais du coup, vous voyez que c'est 2 maintenant qui est frustré. Au lieu d'avoir 3, il a 0. Donc, il a une incitation à réviser, seulement le problème, c'est qu'il ne peut pas réviser tout seul. Donc il est obligé de réviser son coup de manière à proposer en quelque sorte un couple de coups à 1, à I, qui est évidemment de lui dire ben, au lieu de jouer C, D, je vais jouer C, et puis du coup, toi, tu as intérêt à jouer C, parce qu'à ce moment-là, on se retrouvera tous les deux ici. Alors bon, j'ai résumé très rapidement le raisonnement. Pour le rendre conclusif, c'est pas très facile. Mais vous voyez que là, on est en train de lier sans arrêt les changements dans nos raisons à des changements dans nos émotions. En l'occurrence, l'émotion de déception, puis il y avait aussi des émotions inverses qui étaient des émotions d'espoir. Donc, nous pouvons utiliser les émotions comme des moyens de révéler comment ajuster notre rationalité à des changements de notre environnement. Alors, ce qui est maintenant assez essentiel, c'est que nous pouvons utiliser aussi les émotions pour distinguer ce que Elster appelle la distinction entre les intérêts et la raison, et ce que moi j'appellerais la distinction entre les intérêts et les valeurs. Et à l'intérieur de cette distinction entre les intérêts et les valeurs, nous pouvons utiliser les émotions, pour distinguer entre les valeurs tout court, qui peuvent être techniques, esthétiques, etc., et les valeurs morales. Alors là, je vais assez rapidement. Je vous donne cet exemple donc assez marquant d'une étude de psychologues sur des supporters d'une équipe de handball norvégienne féminine. Bon. Alors, ces supporters sont persuadés que leur équipe est bonne. Et on fait des études pour savoir, en leur demandant, avant le match, quelle est la probabilité que votre équipe gagne. Donc, comme ils pensent qu'elle est bonne, ils répondent quelque chose comme 70 contre 30. Et puis, après le match, quand l'équipe a gagné, on leur repose la même question. Et vous voyez que quand elle a gagné, ils baissent les probabilités. Ils répondent 50-50. Inversement, quand elle est perdue, ils maintiennent les probabilités initiales. Donc il y a là quelque chose d'un peu étrange, mais qui me semble tout à fait naturel si vous pensez que justement c'est une révélation de ce que c'est qu'une valeur. Pas forcément une valeur morale. Donc, cette valeur, ben, c'est tout simplement que vous vous révélez rationnel parce que vous tenez compte de la résistance du monde à la réalisation de la valeur. Donc, vous pensez que quand vous avez gagné, ben, le monde n'est pas forcément toujours favorable à vos valeurs. Il n'est pas plus favorable à vos valeurs que vous ne le croyez avant. Au contraire, si vous avez gagné, ça veut dire que peut-être la prochaine fois, vous risquez de perdre. Donc, vous pensez que les valeurs sont risquées, c'est des choses fragiles. Le monde leur résiste. Mais, en revanche, vous maintenez toujours qu'elles doivent se réaliser. Donc, avant le match, vous pensez que vous avez toujours des chances de gagner. Alors, vous voyez cette distorsion entre la résistance à la résistance du monde et, inversement, quand le monde ne résiste plus, ben, c'est les sujets qui renforcent la résistance du monde. Alors, cette situation... permet, vous voyez, de lier une résistance à la révision dans l'attente que notre équipe gagne, résistance à la révision qui peut nous amener des émotions négatives si elle perd, et puis un maintien de la résistance du monde parce que nous ne pensons pas que la réalité pour autant est favorable à nos désirs. Alors au niveau, ça distingue donc, si vous voulez, l'intérêt qui lui se résignerait si le monde est défavorable. Des valeurs. Et enfin, nous pouvons distinguer parmi les valeurs morales, les valeurs morales exactement de la même façon. Mais cette fois, ce n'est pas parmi les préférences en général que va se manifester la différence, c'est parmi les valeurs. C'est-à-dire que nous allons avoir ce problème bien connu, c'est que les autres ont parfois des valeurs différentes des nôtres. Et donc, à ce moment-là, ce qui joue le rôle de la résistance du monde, ben, c'est la valeur des autres. Et ce que nous souhaitons avoir, bien sûr, si nous gardons l'analogie avec ce qui précède, ce sont des valeurs qui, un, vont tenir compte de cette résistance des valeurs des autres, et deux, vont être invariantes, tout de même, dans le processus. Alors, tenir compte de la résistance des valeurs des autres, c'est ce que j'appelle la co-révision, c'est-à-dire que chacun va réviser un peu ses valeurs, mais ça ne nous donne qu'une prudence pratique. Et vous voyez, en même temps, on se dit, ben, je dévalue ma valeur parce que je la compromets avec autrui. En revanche, quel type de valeurs nous pouvons conserver comme invariantes dans ce processus de co-révision ? Ben, évidemment, les valeurs qui tiennent à la co-révision elle-même, c'est-à-dire des valeurs qui tiennent au respect des valeurs d'autrui, au fait qu'on accepte de discuter avec autrui de ces valeurs, etc. Et ces valeurs-là restent invariantes. Et ce sont donc, si vous voulez, nos valeurs morales. Donc, pour conclure, vous voyez que... alors, évidemment... Cette conjonction qui est notre critère, vous voyez, de sélection, qui est la résistance à un monde défavorable et la révision qui tient compte du fait que la réalité nous résiste, cette conjonction, elle se révèle par des émotions. On risque des émotions négatives en maintenant ces valeurs. Et en même temps, évidemment, cette maintenance va avec des émotions positives qui sont le fait que nous découvrons des valeurs stables, invariantes, à l'intérieur de cette modification. Donc, au fond, nous pouvons dire tout simplement que les émotions, vous voyez, sont à la fois nécessaires et rationalisables comme les seules informations vraiment fiables dont nous disposons sur nos valeurs. Parce que si nous nous bornons aux mots, eh bien, nous pouvons afficher beaucoup de valeurs morales qui ne guident pas en fait notre conduite. En revanche, si nous regardons les émotions qui persistent, c'est-à-dire qui manifestent notre résistance à un monde défavorable, eh bien, notre comportement même révèle nos valeurs effectives. Ce ne sont plus des valeurs affichées, ce sont des valeurs qui guident réellement notre vie. Et donc, les émotions sont finalement les seules informations, mais indirectes. Elles ne nous permettent pas de percevoir les valeurs, ce sont des informations indirectes sur la manière dont nous organisons nos valeurs dans une certaine culture. Voilà, je vous remercie.
Je prendrai deux exemples et j'aurais voulu que vous les commentiez. Le premier exemple, c'est l'exemple de la bourse. Dans la bourse, il y a un dicton qui est très connu, qu'on doit vendre au son du clairon et acheter au son du canon. C'est-à-dire que quand les choses vont bien, on doit vendre, ce qui paraît effectivement paradoxal, et quand les choses vont mal, il faut acheter. Et nos émotions, finalement, c'est pour est-ce que ce dicton n'est pas fait pour réagir contre nos émotions ? Voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la roulette, où on sait que, par le calcul des probabilités, que ce qui précède comme gain ou comme perte d'un numéro, par exemple, ou d'une couleur, etc., n'influe en rien sur ce qui va se passer le coup suivant. Dans quelle mesure la croyance quand même que beaucoup de gens ont sur le passé et qui influe sur le futur, alors que c'est manifestement faux, est-ce que ça ne relève pas des émotions ?
Alors, sur effectivement la bourse, ça c'est un secteur dans lequel une étude un peu précise des émotions serait très utile. Parce que le problème, évidemment, du dicton, c'est que ça ne nous dit pas exactement quand vendre, quand même. C'est-à-dire, on attend que ça va... On se dit, mais ça va continuer à monter, donc je ne vais pas vendre tout de suite. Au fond, les émotions, à ce moment-là, peuvent être... Le fait que, justement, nous avons des émotions de rivalité ou de compétition dont nous savons qu'elles nous entraînent forcément un peu trop loin, peut provoquer d'autres émotions, l'expérience aidant, qui sont celles, évidemment, qui seront anticipativement une angoisse devant la chute de la bulle spéculative. Donc la bourse, semble-t-il, fonctionne émotionnellement. C'est-à-dire que là, on a des gens qui sont en retard par rapport à ce qu'ils auraient dû faire comme prévision rationnelle. Pourquoi ? Parce que, alors ce n'est pas uniquement à cause d'émotions, c'est parce que, évidemment, ils pensent que s'ils commencent à vendre, ils vont créer la panique émotionnelle qui va faire qu'ils ne pourront pas vendre tout ce qu'ils ont à vendre tout de suite. Donc, vous voyez, c'est un jeu, effectivement... émotionnel très, très compliqué pour la bourse. Mais ça serait très intéressant d'étudier ça de ce point de vue, et pas simplement du point de vue de l'évolution chaotique, ce qui se fait aussi. Alors, pour la roulette, je ne sais pas si c'est forcément lié aux émotions que de supposer que le passé influence le futur. C'est un biais causaliste basique, c'est-à-dire qu'au fond, on pense toujours que les choses ont des racines causales. Et ça, le concept de hasard n'est pas un concept qui est très naturel. Les émotions, effectivement, qu'est-ce qu'elles ont qu'est-ce qu'on a comme émotion vis-à-vis du hasard ? Ben, l'angoisse. Et c'est pas une émotion, c'est une émotion très fondamentale parce qu'elle est liée justement à l'idée de révision. Si vous savez que vous devez changer vos croyances, ben ça fait que votre paysage conceptuel devient flou. Et ce n'est pas très agréable, on ne sait plus comment décider. Donc, pendant tout un temps, il y a une angoisse qui est un des facteurs par lesquels, justement, les émotions peuvent bloquer les révisions. Donc, ça serait un autre exemple, si vous voulez, du fait que... mais je pense qu'il y a une autre émotion qui est l'espoir du gain... en se disant « si, ça va encore marcher ». Et là, ce n'est pas une histoire causaliste, c'est une histoire évidentialiste. C'est-à-dire qu'on pense que c'est un signe. Le gain précédent est un signe de notre chance, en fait. Donc, vous voyez, ça devient vraiment des histoires qu'on se raconte et qui ne sont pas très rationnelles, alors, pour le coup.
Vous nous avez montré à un certain moment des courbes. Or, quand j'étais petit, on m'a appris qu'une courbe représentait la variation d'une grandeur en fonction d'une autre grandeur, toutes choses égales d'ailleurs. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez sur quoi sont basées ces courbes.
Sur pas grand-chose, effectivement. Si on veut, elles sont basées sur un modèle théorique, elles ne sont pas basées du tout, évidemment, sur une étude expérimentale de ce que feraient les sujets. Je ne vois pas trop comment identifier chez le sujet quelle est la valeur anticipée de se trouver à la soirée, vous voyez, ou d'être dans de bonnes conditions pour passer son examen. Non, c'est simplement, si vous prenez le modèle de l'économiste, eh bien, vous avez ce genre de courbe. C'est-à-dire, c'est un modèle purement théorique. Mais c'est un problème du modèle théorique. Dans la mesure où le modèle théorique a pour contact avec la réalité simplement le fait qu'à un certain moment, les agents décident, ben, s'ils ne décidaient jamais, il n'y aurait pas de problème dans ce modèle. Mais comme ils doivent décider à un certain moment, ben, le moment où les courbes se croisent crée un problème pour la théorie. Et en fait, le problème est... Bon, je pense qu'il correspond, l'histoire de la soirée et de l'examen, on peut l'avoir vécu, mais il correspond à un critère très précis qui est que les courbes doivent présenter dans leur partie montante, elles doivent être hyperboliques. Sinon, il n'y a pas de croisement entre les courbes. Donc c'est purement un problème théorique.
Merci beaucoup. Oui, je voudrais dire quelque chose qui me paraîtrait, c'est-à-dire comme étant tout à fait fondamental. Vous parlez des émotions, vous en parlez vous-même. Ce qui vous fait penser, ce serait quoi? Ce serait votre cerveau. Il est à vous, il vous appartient, il fait partie de votre identité, de votre nature, de votre conscience, de votre âme, de votre cœur. C'est tout un ensemble qui est en vous. C'est votre ensemble dont vous avez parlé depuis tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez pensé, en raison de votre cerveau. Mais toute personne a un cerveau différent. On pourrait donc penser que toute personne pourrait parler d'une façon différente de vous, en étant consciente par rapport à son cerveau, que sa pensée serait celle de ses idées. Mais du point de vue de la réalité, les émotions, c'est difficile de parler de tout le monde. Il est tellement déjà difficile de penser de par soi-même. Donc lorsque vous dites que les émotions sont ainsi faites, vous dites c'est ainsi pour tout le monde, serait-ce vraiment tout à fait raisonnable du point de vue de votre conscience et du point de vue de votre cerveau? Vous le pensez, c'est tout à fait naturel, ça vous appartient. Mais du point de vue de ce qui serait rationnel, je crois que nous avons chacun nos émotions qui nous sont propres. On ne peut pas les quantifier pour tout le monde. Si ça l'était, ce serait un manque, comment dirais-je, de tolérance. Cela sous-entendrait de dire que les gens devraient penser de telle façon ou de telle manière. Quant à moi, je n'ai pas ce monopole de tout savoir. Je sais que je ne sais rien par rapport à ma propre éternité.
Je ne pense pas avoir une conception si élevée de la rationalité, qui devrait dire... absolument ce qui est valide pour tout le monde dans sa singularité propre. La rationalité est quelque chose de plus commun, plus ordinaire, qui consiste justement à ne retenir des singularités que ce qui tranche vraiment ou ce qui est intéressant de ce qui est absolument nécessaire pour nous coordonner les uns avec les autres. Donc, lorsque nous parlons, c'est en principe pour nous coordonner les uns avec les autres. Du coup, je suis entièrement d'accord sur le fait que les émotions propres sont singulières, mais le problème, c'est que, évidemment, si nous voulons, à ce moment-là, parler de nos émotions singulières, c'est une entreprise totalement vaine, puisque nous utilisons, au contraire, des mots qui sont faits pour la coordination. Donc j'en reste à ce point de vue, évidemment, de la coordination, et je n'ai même pas prétendu qu'on pouvait parler pour tout le monde. Il pourrait y avoir je l'ai montré, qu'il y a des positions sur les émotions vraiment assez variées et assez différentes. Simplement, on peut essayer de rendre sensible à un aspect des émotions, et l'aspect des émotions auquel j'ai voulu vous rendre sensible, c'est celui de cette articulation avec nos changements de croyances et nos changements d'attentes. Alors, si vous retrouvez des expériences qui vous semblent similaires de près ou de loin à ce genre de choses, à ce moment-là, la communication s'est faite et ça me suffit.
Oui, moi j'ai une question très simple. Peut-être que... Et j'aurais bien aimé que vous définissiez en quelques mots, sans me donner d'exemple, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous définissez par émotion ? Quelle est la différence avec intuition, les sentiments ? Est-ce que l'amour est une émotion ? Voilà, c'est ça qui me manque en fait.
Je crois que... Attendez, je vous ai donné une définition, je ne sais plus dans quel sens, pardon, enfin je vous la redonne comme ça. Hein. C'est donc la perception d'un différentiel entre des attentes qui peuvent être complètement implicites, hein, c'est-à-dire ce n'est pas des attentes ou conscientes, forcément, qui sont en cours, qui sont activées cependant au moment où vous vivez cet affect, et puis la situation qui se présente, et évidemment il faut que vous puissiez vous apprécier ce différentiel en fonction de vos désirs et de vos préférences. Alors, les sentiments, là, c'est une définition de ce qu'on appelle l'émotion occurrente, c'est-à-dire un changement de votre état affectif qui est relativement brutal. Mais il peut être, bon, la courbe peut être plus ou moins prononcée, si vous voulez. Enfin, ça, c'est une métaphore, simplement. Hein. L'amour peut être une émotion si, je sais pas, le coup de foudre, par exemple, c'est évidemment une émotion. Mais en revanche, un sentiment, c'est une disposition à ressentir plutôt tel ou tel type d'émotion. Donc, en principe, un sentiment est quelque chose de relativement stable, mais qui va évidemment se manifester par des émotions occurrentes. Si vous êtes toujours amoureux, alors en revoyant la personne dont vous êtes amoureux, vous allez ressentir de nouveau des émotions occurrentes qui sont liées à l'émotion amoureuse. Si vous ne les ressentez plus, c'est en principe que vous êtes passé à un autre stade, hein, plus exactement amoureux. Donc, vous voyez, le sentiment est une disposition, mais cette disposition est liée à ces changements affectifs qui se produisent. Et dans le cas de ce qu'on appelle l'amour, on suppose qu'il y a une résistance de l'émotion à la répétition. Alors que, la plupart du temps, vous avez une certaine dégradation des émotions lorsqu'une situation similaire se répète. Enfin, il ne faut pas qu'elle se répète toutes les 30 secondes, sinon il y aura habituation, vous serez plus sensible. Mais si c'est tous les jours, par exemple, je prends toujours mon exemple météorologique, hein, si vous constatez que c'est la 10e journée de temps gris, et que vous soyez quand même très attaché au soleil, vous allez toujours être déçu. Donc, vous voyez, alors à ce moment-là, vous avez un type de sentiment qui est une disposition face, qui vous permet de ressentir une émotion qui résiste à sa dégradation par la répétition de la situation. Mais une bonne partie des émotions ne résistent pas trop à cette dégradation.
Moi, c'est une question par rapport à l'émotion contentement que vous avez utilisé. D'habitude, je lis joie. Et je voulais savoir si c'est parce que le thème est l'économie. Alors, qu'est-ce que c'est le contentement et qu'est-ce que c'est que la joie de comprendre quelque chose ? Je donne juste un exemple. Quelqu'un pourrait perdre en économie un gain, donc devrait ne pas être content. Mais si cette expérience lui apporte une information qu'il n'avait jamais vue, comprise, si tout d'un coup il comprend quelque chose, il peut devenir jubilatoire alors qu'il a perdu. Mmh. Voilà, c'est ça mon problème, s'il vous plaît.
Alors, contentement, j'ai préféré utiliser un terme assez neutre, vous voyez, parce que ça désigne effectivement, finalement, si vous regardez dans la liste des émotions de base, c'est la seule émotion positive. Donc ça désigne en fait tout l'ensemble des émotions positives. Et dans le livre sur émotions, la rationalité morale, j'ai proposé justement une typologie plus fine. Et c'est très facile d'en faire, puisque évidemment vous avez cité la joie, qui peut être plus ou moins extatique, plus ou moins active, plus ou moins contemplative. Enfin, il y a beaucoup de types de contentement. Alors, ce que vous dites là sur l'information, effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de développer, mais vous voyez que lorsque vous essayez de soutenir un certain nombre de valeurs, évidemment, l'économiste, normalement, vous dit, mais c'est pas rationnel, parce que Si le supporter, par exemple, hein, qui fait des, qui au fond, si on lui demande de faire des paris sur les chances de gain de son équipe, il va toujours perdre de l'argent à long terme, hein, puisque évidemment, très probablement, il survalorise un peu ses chances, et surtout, il tient à ce que son équipe, même quand elle a perdu, essaye de gagner la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'il y gagne ? C'est moins reluisant que l'idée de gagner de l'information, hein, mais c'est quand même un peu le même mécanisme. Qu'est-ce qu'il y gagne ? Ben, il y gagne le partage d'une valeur avec les autres supporters et avec son équipe. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de résister justement aux émotions négatives que, par exemple, la perte pourrait produire. Donc, au fond, quand nous avons au prix d'une perte, donc d'une émotion négative, manifester une valeur, comme justement une information intéressante, donc des choses comme ça, à ce moment-là, nous avons certainement une émotion positive de second degré, si je puis dire, hein, qui est que nous pouvons partager cette valeur. Et en l'occurrence, pour l'information, c'est ce qui se passe. Si du moins vous donnez à l'information un sens fort, vous voyez, parce qu'un économiste pourrait dire, mais l'information, c'est un moyen d'épargner des dépenses aussi. Donc peut-être qu'en fait, je n'ai pas perdu, même au point de vue gain, je n'ai pas perdu si j'ai une information.
Pierre Livet, merci beaucoup.